Alors pour commencer cette table ronde, je vais demander à chaque personne qui est ici de se présenter brièvement, de dire où elle travaille et à quel titre elle va intervenir. On commence par Madame.
Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Donc, au nom de l'antenne Région Valais-Romand, je me prénomme Florence Gessler. Je m'occupe de tout ce qui est création d'entreprise. Donc, l'antenne Région Valais-Romand est le bras opérationnel de l'association des régions du Valais central et du Bas-Valais. À ce titre, on soutient les collectivités publiques et les entreprises. On offre des outils pratiques. Notre tâche est surtout de sensibiliser et d'orienter les entrepreneurs. Donc, de la création d'entreprise au développement, voire même à la transmission.
Suivi par Patrick.
Bonjour tout le monde, Patrick Chabet, depuis septembre de l'année dernière, secrétaire général des syndicats chrétiens du Valais. Moi j'y suis depuis 8 mois, mais eux ils existent depuis 1929.
Bonjour. Bonjour tout le monde, Christian Pfefferlé. Je travaille dans ma propre entreprise. C'est une entreprise de quincaillerie, outils, machines, etc. J'en ai pour quelques jours parce que ça fait 175 ans qu'on est là. Je représente la sixième génération de la famille à la tête de l'entreprise. Donc lorsqu'on parle de développement durable, etc., ça me parle tout à fait. Et puis nous sommes actifs depuis le sommet du Valais jusqu'à Genève. Voilà.
Bon, je crois qu'on ne présente plus le professeur Deminski que vous avez entendu tout à l'heure. Alors bon, on a entendu durant plusieurs brillantes conférences, on a passé en revue l'économie du monde entier, les problèmes aux États-Unis, tout ça. Et maintenant, on se retrouve ici pour parler un pardon. Ah oui, excusez-moi, c'est ma modestie du temps souffrir. Alors je suis Pierre Maillorat, journaliste et nouveliste. Donc, on va se retrouver ici dans le monde valaisan, le monde de l'entreprise valaisanne, le monde de la promotion économique valaisanne, des syndicats valaisans, sous l'égide de Monsieur Dembinski, qui connaît très bien ces problèmes. Alors, je vais poser peut-être la première question à Monsieur Pfefferlé. Vous avez entendu tous ces problèmes macroéconomiques. Est-ce qu'en Valais, on ressent quelque chose des impacts qui viennent de ces problèmes?
Alors, moi, je dirais au contraire, je trouve que l'économie valaisanne, je trouve que l'économie suisse est extrêmement stable, extrêmement bonne actuellement. Moi-même, mon entreprise, on est dans le domaine de la construction, donc on ne souffre absolument pas actuellement. On est dans les 30 glorieuses, je n'ai pas peur de le dire. On a une situation économique qui est privilégiée actuellement. Elle va durer le temps qu'elle durera, et puis on se prépare à des lendemains un petit peu plus difficiles, mais on crée nos réserves et on est attentif à cela. Donc pour le moment, à mon niveau d'entreprise, environ 170 personnes, absolument pas touchées par la crise économique.
Voilà un constat réjouissant. Alors, on a assisté le week-end dernier au refus d'un salaire minimum en 3 500 francs en Valais à 4 000 francs sur le plan national, deux initiatives que le peuple a très nettement refusées. Est-ce que dans une conjoncture aussi bonne que celle-là, il n'aurait pas été possible d'accorder ce salaire? Encore une fois, à vous de répondre.
Oui, nous sommes déjà largement au-dessus de ces 4 000 francs par mois, donc je me sens absolument peut-être concerné, mais pas directement touché par cela, puisque nous avons déjà dépassé ce seuil-là. Comme commerce spécialisé dans la vente de détail, de machines, d'outils, d'acier, d'armature, c'est clair que nos spécialistes sont certainement mieux payés que ceux des Do-It, des On-Bar, pour citer ces entreprises-là. Donc je dirais qu'on est déjà une étape en avant de cette votation-là. Alors, est-ce que l'économie valaisanne aurait pu, ou suisse aurait pu encaisser ce choc-là? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que le timing était bon ou pas? Ça, je ne suis pas capable d'y répondre.
Et Patrick, du point de vue syndical, qu'en pense-t-on de ce refus?
Oh, le refus était largement prévisible. Nous, au syndicat chrétien, on avait fait un petit peu une entorse à notre amour de la subsidiarité pour effectivement défendre les deux initiatives d'ailleurs sur le salaire minimum. Ce qui m'a beaucoup frappé et ce qui nous nous amène à quelques réflexions à l'interne, c'est les 18% que fait l'initiative fédérale en Valais et les 19,3% de l'initiative cantonale. C'est des scores extraordinairement faibles et qui vont clairement nous handicaper ces prochaines années.
Quand vous dites nous handicaper, ça veut dire handicaper combien de personnes dans le monde du travail valaisan ? Parce que M. Pfefferlet dit que chez lui, les gens sont payés nettement plus que 4000 francs, donc pour eux, ça ne change rien.
Non, mais simplement, ça va nous handicaper dans la mesure où nos demandes risquent de... Enfin, j'ai passé tout l'automne dernier, c'était mes débuts, à m'entendre dans beaucoup de branches, à m'entendre répondre 34,7% de l'initiative 1-12. Après cette branlée, vous n'avez pas avantage à la ramener. Alors, je me réjouis de cet automne-ci. je sens que ça va être encore plus rigolo. Nous, on est partisans du dialogue. On nous a aussi énormément dit pendant toute la campagne que tout tenait au partenariat social, que ce n'était pas le rôle de l'État, etc. Toutes choses auxquelles on adhère plus que volontiers. Alors maintenant, on l'a fait savoir via une annonce dans le Nouvelliste mardi dernier, on va écrire à toute une série de branches, et puis on va prendre au mot, au fond, ce monde économique qui nous a dit c'est pas à l'État d'intervenir, c'est aux partis. Et là, on est en plein dans la subsidiarité dont on parlait tout à l'heure, et ça, c'est nos valeurs. Donc, je me réjouis de passer à ce stade en espérant que les 82% de non ne crée pas trop d'arrogance chez nos interlocuteurs.
Donc le monde syndical rejoint en quelque sorte la doctrine sociale de l'Église.
Je parle pour nous, je ne parle pas pour le monde syndical.
Oui, vous vous appelez chrétien.
Non, mais, parce que, alors, juste, non, mais c'est un vrai problème. Parce que on dit les syndicats. On a soutenu, parce qu'on avait le choix, et entre oui et non, on a choisi oui. OK, et on assume, et on ne s'est pas désolidarisé. Mais cette initiative qui a été lancée par l'USS, elle ne vient pas de chez nous, et comme je le disais à l'instant, on a fait une entorse à nos propres tropismes pour la soutenir. Alors maintenant, on se réjouit, une fois passé le 18, nous, depuis le 19 mai, on travaille à repartir sur ce qui est beaucoup plus proche de notre ADN, qui est du dialogue, du partenariat. On n'a pas lancé d'initiative sur les salaires. C'est vrai qu'on l'a soutenu, mais moi, je parle que en nous tenant à nous. Et effectivement, si aujourd'hui, je suis heureux d'être là, c'est parce que les syndicats chrétiens du Valais, c'est pas juste le mot chrétien parce qu'ils ont été fondés en 1929 et puis parce que on change pas les choses. C'est une vraie grille d'analyse qu'on utilise et qui nous a valu d'ailleurs à plusieurs reprises de nous retrouver copieusement engueulés par des gens d'autres syndicats parce qu'on n'était pas, au fond, alignés sur les syndicats. Nous, on prétend que l'immense avantage, pour être très concret, de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'elle offre une clé de lecture qui permet d'échapper au réductionnisme du clivage gauche-droite. Alors évidemment qu'on se retrouve souvent avec des gens de gauche qui nous disent « Mais vous êtes un syndicat et vous n'êtes pas de gauche. » On dit « Ouais, bon, et pourquoi pas ?»
Donc en fait, à part l'Église, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens de gauche.
C'est pas tout faux.
Et Madame Gessler, la promotion économique en Valais, est-ce qu'elle tient compte? Parce qu'on dit ici qu'il faut remettre l'homme au cœur de l'économie. Est-ce que vous avez un programme qui tend à remettre l'homme au cœur de l'économie, qui ferait un peu fi des tendances actuelles où, comme j'ai entendu tout à l'heure, le travail n'est plus qu'une une variable d'ajustement pour que le capital rapporte un maximum?
La petite entreprise fait déjà partie de la majorité des entreprises valaisannes. Donc derrière ça, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur est le cœur, je pense, de l'économie. Donc oui, l'antenne nous met tout en avant pour donner les moyens à cet entrepreneur de réaliser son projet dans la pérennité. Après, il a aussi ses objectifs de bénéfices, de réussite. Donc il ne peut pas tout faire pour mobiliser ses ressources au niveau social. Mais c'est aussi des entreprises familiales qui ont une philosophie familiale, donc qui le font d'elles-mêmes.
Donc vous voudriez dire que, par exemple, le salaire n'est qu'une des choses. Donc il y a un rapport entre le patron et l'employé dans la majorité des entreprises valaisannes qui dépasse le clivage purement financier.
Si on revient sur les salaires minimaux, le patron
Sans aller au
lui-même.
salaire minimum nécessairement, la
Oui.
pratique qui se fait, les salaires minimaux ont
Alors
été
là,
refusés.
mais déjà dans la petite entreprise, le patron lui-même n'arrivait certainement pas à ces 4 000 francs minimaux demandés.
Dans certaines,
Dans la
j'ose
création
espérer que dans la
d'entreprise, en tout cas.
majorité, ah, dans la création d'entreprises, oui, là vous parlez de jeunes pousses, on dirait. Et vous, monsieur Dembinski, on a parlé là, on a évoqué quelques traits, je dirais, assez forts de l'économie valaisanne, vous, avec votre vision, je ne veux pas dire du bout du lac, mais quand même extérieure. Est-ce que vous pensez que cette situation est propre au Valais ou est-ce qu'on la retrouve ailleurs dans d'autres cantons, puisqu'on parlait de fédéralisme tout à l'heure qui était si important, ou est-ce que vous pensez que le tissu économique valaisan est fondamentalement différent?
La question du tissu économique, je pense qu'il est central. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle d'entrepreneur. Alors, ce que l'on constate, on le voit aussi un peu à travers les statistiques. Je n'ai pas tout à fait le souvenir des statistiques particulièrement valaisannes, mais ce que l'on voit de plus en plus, c'est que les entreprises deviennent éphémères. Que l'idée de l'entreprise familiale, là, on a un magnifique exemple, sixième génération, il fallait vouloir tenir, en quelque sorte. Hein, moi, j'ai l'impression, en contact avec des jeunes entrepreneurs, qu'il y a une mentalité un peu différente aussi qui s'installe. Je ne veux pas dire qu'elle est majoritaire, mais qui s'installe au niveau de l'idée d'entreprendre et puis qui se traduit ensuite au niveau du tissu économique. L'idée, c'est que l'entreprise est un peu un élément un peu ludique. Comme il y a certains qui viennent faire un tour du monde, il y a d'autres qui essayent de créer une entreprise. Et puis on se donne une année, on se donne 18 mois, on se donne 24 mois pour faire quelque chose. Et si ça ne marche pas, ben on fait autre chose. Et si ça marche, il n'y a pas cette idée d'engagement de long terme à l'entrée, en quelque sorte. Et ça se voit au niveau du tissu économique. C'est-à-dire que les entreprises deviennent, en fait, une étude il n'y a pas très longtemps sur la durée de vie moyenne des entreprises, des petites entreprises, elle a tendance à se raccourcir. Mais les chiffres suisses ne sont pas très précis, mais a tendance vers un raccourcissement. Ça pose un problème au niveau de la solidité du tissu économique, parce que les petits n'ont pas tellement de temps de devenir moyens, et quand ils deviennent juste un tout petit peu plus grands que petits, soit ils butent sur une. Soit ils se stagnent, soit ils se font reprendre, hein, ou soit ils cherchent à être vendus. Parce que ce n'est pas seulement qu'ils se font reprendre parce que quelqu'un ne peut pas, mais il y a aussi la volonté de sortir. Et c'est un des moyens par lesquels se traduit cette concentration au niveau de l'économie mondiale. Alors l'économie valaisanne, je crois qu'elle résiste relativement bien donc il y a pas mal d'entreprises familiales de deuxième à troisième génération. Mais est-ce que les nouvelles entreprises sont faites avec cet esprit-là? Je ne peux pas le dire. Je pense
Oui,
que
mais
c'est
est-ce que
fondamental.
ça expliquerait la frilosité des banques, ce raccourcissement de la durée de vente? Oui.
Si je peux illustrer en termes de statistiques, une transmission d'entreprise a 95% de chances de réussite au bout de 5 ans. Une nouvelle entreprise n'est que 50%.
Non. Oui, ça c'est une statistique qu'on a entendue. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit encore sur ce caractère éphémère. Vous, Monsieur Pfefferle, 175 ans, c'est extraordinaire. Il y a des raisons. Est-ce que vous avez analysé objectivement ces raisons ou bien est-ce que vous vous êtes dit bah, tout va bien, puis tout va encore aller bien pendant 175 ans?
C'est un petit peu ça, il faut surtout pas trop réfléchir, il faut travailler. Non, mais je rebondis sur ce que le professeur a dit. Je pense qu'on peut pas, on doit comparer aussi des choses où dans le secteur primaire, on construit, on achète, on investit pour plus longtemps peut-être, dans ce qu'on est aussi que des entreprises de services. Donc je pense qu'il faut aussi pas faire l'amalgame, hein, si je peux me permettre.
Oui, c'est vrai. Mais donc la décision, parce qu'on a fait pas mal d'études sur les faillites d'entreprises, la décision d'entreprendre est moins sérieuse quand on doit juste acheter un ordinateur et se faire une carte de visite. Donc effectivement, c'est moins bien préparé. C'est clair que ça, parce que l'investissement est moins lourd. Et dans le secondaire, d'ailleurs, la casse des entreprises intervient plus tard, parce qu'il y a eu un investissement, il y a eu un projet, et quand on arrive au bout de ce projet, ben effectivement, dans certains cas, tout se termine. Mais on a l'impression que le projet est mieux préparé. C'est moins ludique, en quelque sorte.
et puis pour expliquer le succès ou l'histoire de Préfère des compagnies, c'est que c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération. Moi-même, je ne me sens pas propriétaire de l'entreprise, je me sens le passeur d'une entreprise à la génération suivante. La génération suivante, c'est mon fils qui a 23 ans, qui j'espère sera prêt dans 10 ans pour me permettre de prendre une retraite. Et puis c'est ça. Alors maintenant, quand on parle, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au rendement. Je fais peut-être plaisir aussi à M. Chabet, syndicaliste. Nous, on a décidé depuis une vingtaine d'années de privilégier l'outil de travail, d'investir, de renouveler les camions, d'avoir des euros 6 plutôt que des euros 3, etc. Parce qu'il y a des incitations là derrière économiques et légales. Et puis surtout, en deuxième point, donc maintenir l'outil de travail d'abord, puis en deuxième point, de payer et de donner et de distribuer de l'argent à nos collaborateurs. Ça veut dire que l'entreprise, elle est là pour payer un petit peu d'impôts, pas trop, parce qu'il faut quand même utiliser la voie publique et puis faire ce qu'on doit faire. Mais nous, on est surtout là pour donner des salaires à nos gens. On distribue depuis une dizaine d'années un 14e salaire à tous nos collaborateurs. Ça ne se fait pas beaucoup en Valais ni en Suisse. Donc, on privilégie le collaborateur. Puis ensuite, s'il reste quelque chose, on fait en sorte qu'il reste toujours quelque chose. On n'a pas honte à prendre ce qu'on doit prendre et à rémunérer notre capital qui a été investi. Donc ça, c'est une longue tradition. Alors, d'où est-ce que ça vient tout ça? Je pense que ça vient d'éducation de mes arrière-grands-parents, grands-parents, parents, etc. Ça fait partie de notre culture, de famille. Ça fait partie de la transparence qu'on a toujours eue dans nos familles. Et puis, il n'y a pas de raison que ça se termine comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je dis aussi à mes enfants. Et les gars, venez, on discute. Puis voilà ce qui se passe, voilà les chiffres. Et puis, la transparence aide. La vision pour moi, c'est absolument pas de faire 15% d'intérêt sur capital investi, surtout pas. La vision, c'est de transmettre ça plus loin. Et j'espère que dans 25 ans, je pourrai fêter le 200e anniversaire avec des gens d'entreprise. Donc une vision à très long terme et non pas un rendement réduit très court.
Donc en fait, vous êtes dans la ligne de la doctrine sociale de l'Église qui demande que le travail prime sur le capital.
Ouais, je dirais oui, mais c'est juste du bon sens. Je crois qu'il faut, à un certain moment, il faut du bon sens. Pour que l'entreprise, elle perdure, il ne faut pas que je tire tous les bénéfices et toute la substance de cette entreprise. Ça, c'est du bon sens. Je n'ai pas besoin d'avoir fait 25 ans d'université pour le dire. Sans être naïf non plus, mon entreprise doit faire du bénéfice. Elle doit faire du fric. Sinon, je ne vais pas pouvoir être social ni durer sur la longueur, en le disant crûment.
Que pense-t-on de ce...
Vous associez à l'entreprise.
Que pense-t-on de ce bon sens au syndicat chrétien?
Que décidément le bon sens est une des choses les moins bien partagées du monde, parce que j'aimerais avoir plus d'interlocuteurs comme M. Feuferlet. Non, ce que je voulais souligner, c'était par rapport à la réalité. C'est d'abord que j'ai beaucoup apprécié la reconnaissance que les affaires allaient bien. Parce qu'on a aussi vécu l'automne dernier, toujours quand on négociait des salaires 2014, avec en face... tout secteur confondu, des gens qui nous dépeignaient l'apocalypse. Un peu comme on nous a fait le coup pendant toute la campagne sur le salaire minimum, quoi. Alors, raisonnons entre gens de bonne foi. Certes, c'est des arguments de campagne, je comprends, mais on devrait pouvoir aller au-delà de ça. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que on peut avoir un vrai dialogue quand il y a aussi une proximité. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très important qui va avec une forme de subsidiarité. C'est une subsidiarité géographique, si on veut bien, en quelque sorte. Mais de la brève expérience syndicale, même si j'ai fait des tas d'autres choses avant, ce que je constate vraiment, c'est que quand on a en face de nous des gens et que ces gens connaissent leurs ouvriers ou connaissent leurs employés, les choses sont beaucoup plus simples. J'ai pas pu m'empêcher tout à l'heure en écoutant M. Dembinski de me dire que dans des grandes entreprises, parce que j'en ai aussi fréquenté, il y a des gens qui décident de plans d'économie, mais ils sont exactement comme les pilotes de drones au fin fond du Colorado, qui se rendent absolument pas compte qu'il y a des humains au bout du missile qui sont en train de guider à 10 000 km de distance. Ben, il y a des gens qui mettent en place des plans d'économie comme ça. Et de ce point de vue-là, sans vouloir dire du mal de la formation académique, mais dans le monde des grosses PME, j'avoue avoir quelques inquiétudes par rapport au fait qu'on assiste, à mon sens, à un glissement d'un ancien encadrement de milices, de gens qui connaissaient le métier, qui savaient d'où venaient, un peu comme on a un encadrement de milices dans l'armée, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas plus militariste que ça. Et on voit débarquer des gens qui savent tout parce que leur diplôme de Saint-Gall est juste sec, et qui, eux, croient que ce qu'il y a sur PowerPoint, c'est la réalité. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant dans le monde de l'entreprise, pour nous les syndicats.
Est-ce que du côté de la promotion économique, on tient compte de ces paramètres ou on essaye simplement de, je dirais, de foncer, de créer des entreprises? On voit qu'elles ont une espérance de vie relativement limitée, donc il en faut beaucoup pour qu'il y en ait quelques-unes qui survivent. Est-ce qu'on tient compte de ce phénomène, on dira, de replacer l'homme au milieu de l'économie? Parce qu'on entend, vous m'avez dit tout à l'heure que les gens ne gagnent pas très bien leur vie dans ces start-up et tout ça. Donc on a l'impression qu'on fonce puis on verra. Est-ce que c'est réellement le cas?
Beaucoup de gens passionnés. Avant tout, la passion emporte sur le capital, on va dire. Après, à l'antenne, on sensibilise sur la prise de risque, parce que souvent il y a quand même une famille derrière, il y a quand même des enjeux. Donc on sensibilise sur la prise de risque, sur les démarches administratives, sur la législation en cours auxquelles il faut faire aussi attention. Et puis après, on essaye d'aider à structurer l'idée, donc pour pas que la personne elle aille droit au mur, mais qu'elle aille sur la pérennité, parce que c'est l'objectif. Hein. Plus il y a d'entreprises qui se créent, plus on est satisfait. Et il y a aussi l'innovation qui contribue à la diversification du tissu économique. Donc oui, pour nous, plus il y a d'entreprises qui se créent, plus le résultat est satisfaisant.
Donc là, vous parlez surtout de quantité, parce qu'il y aurait quand même, on pourrait peut-être imaginer de la qualité qui fait qu'elles auraient une durée de vie plus longue.
Alors, par notre accompagnement, on espère que la qualité, elle suit d'office, oui. Après, grâce à la main invisible, le marché s'autorégule, donc on fait confiance.
Oui, ça n'a pas été tellement conseillé. Là, je voudrais aussi interpeller un peu le professeur d'université. On a des écoles très reconnues en Suisse, etc., où on forme des gens, on dira des techniciens de haut vol. Mais on a l'impression que la vision humaine de ce monde, du monde du travail, n'existe pratiquement pas. Vous disiez Saint-Gall tout à l'heure. Enfin, non, c'est pas vous qui disiez, mais voilà. On a l'impression que ce sont de froids techniciens qui, eux, sont justement c'est leur main qui est couverte d'un gant. Est-ce qu'on pourrait pas, dans le monde académique, parler de 120 heures dans un master tout à l'heure, etc., accentuer cette formation?
Je pense qu'il y a deux éléments là-dedans. La première, c'est que beaucoup de professeurs qui enseignent ces matières n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ça, c'est quand même, il y en a pas mal. Pas tous, mais il y en a quand même pas mal. Donc, enseigner, c'est pas enseigner le jugement dans une situation pratique, mais plutôt conforter le jeune qu'il a des recettes pour résoudre l'ensemble des malheurs ou des problèmes d'une entreprise. Et c'est comme ça qu'on pousse à ce qu'il se vende. Et ça, c'est une aberration. Donc il y a à l'entrée, il y a un manque d'humilité quelque part dans la formation en management. Et je pense qu'il y a deux points, que, encore une fois, on a parlé de ce qui se fait au niveau de l'enseignement. Ce qui se fait au niveau de, malheureusement, je crois que l'ensemble des universités que je connais, c'est qu'en l'espace des 20 dernières années, on s'est soigneusement débarrassé de tous les cours d'histoire économique ou à dimension économique. On est en train de le faire maintenant à l'Université de Fribourg. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça permet aux étudiants de voir que toujours ça ne s'est pas passé comme ça. Donc peut-être demain, ça se passera autrement. Donc ça ouvre encore une fois l'imagination et ça enlève un peu de certitude que la recette que j'ai est la recette et l'ouvre-boîte universelle. Et comment justement on se défait de tout ce qui est histoire, on conforte implicitement dans ce savoir unique et universel. C'est terriblement dangereux. Le deuxième point qu'on fait, la même chose, c'est qu'à l'époque, on avait... Enfin, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, on avait le souci d'amener de temps en temps les étudiants sur le terrain d'une petite, pas seulement des grosses mastodontes où on fait venir des hauts responsables qui font une magnifique histoire, mais ne montrent pas la réalité des choses, mais d'entreprises moyennes, etc. D'une part, il y a une association qui s'appelle PME Université. C'est difficile pour les PME d'accueillir de trouver des professeurs qui voudraient venir avec un groupe d'étudiants, difficulté d'insérer ça dans un cursus, enfin dans le cadre de plage horaire, mais aussi des fois difficile de trouver des PME qui soient capables d'accueillir. Donc je pense qu'il y a un dialogue en quelque sorte à réouvrir. Je parle des formations universitaires, les formations HES je les connais moins, donc je peux pas en parler. Mais les conventions universitaires, le reality check, en quelque sorte, est absolument fondamental. Je le fais avec des étudiants qui, dans un cours qui s'appelle Création d'entreprise, Esprit et création d'entreprise, je leur demande d'aller trouver eux-mêmes une entreprise qui a moins de 3 ans et de faire une interview avec l'entreprise. Ce qui ressort de tout ça, c'est l'homme a de l'importance. Donc, au cœur de chaque entreprise, ils sont tous surpris de découvrir qu'il y a des personnes. Ils sont surpris.
Non mais, juste si tu permets Pierre, en 2 secondes, j'ai trouvé assez fascinant récemment un ami français qui vit ici en Suisse m'a demandé si je pouvais lui trouver une place pour son fils. Son fils est étudiant en architecture à l'école du Louvre à Paris et il devait trouver un stage de 4 semaines comme maçon. Je trouve que ça devrait inspirer d'autres universités.
Oui, c'est encore pas le cas ici, mais la suppression, M. Dembinski, de ces cours, c'est un phénomène délibéré qui dépend, je ne sais pas, du conseil d'université, de la politique.
C'est délibéré dans le sens qu'on ne fait pas une carrière universitaire en visitant des PME. Il faut faire des publications. Et ceux qui ont fait des publications dans les bonnes revues, ils ne font pas sur des cas isolés de l'économie, etc. Il faut qu'il y ait un appareil statistique solide, fort, et qu'il y ait une base théorique. Donc il faut nécessairement être dans le monde du général et non pas dans le monde du particulier.
Donc en fait, c'est le monde du particulier. Un complot pour
donc, voilà, conserver donc, il y a une théorie économique, cette théorie est unique et universelle, ça c'est le postulat. Donc l'histoire, c'est du bruit. C'est du temps perdu.
C'est effrayant.
C'est comme la philo.
Mais c'est très intéressant, et vous parlez en plus de philosophie, il y a un professeur de philosophie ici, ou peut-être plusieurs, mais c'est non seulement à l'université que ça devrait être enseigné le bon sens ou les normes ISO 26000 qui sont les normes sociétales et comportementales, etc. Au collège ou à l'école primaire, ça devrait se faire. Vous avez un grand rôle à jouer, les professeurs, et puis le milieu politique, ça me paraît aussi évident qu'il doit être associé à ça. Sinon, il n'y a plus rien qui va. Alors, qui est le détonateur, qui est l'étincelle au début, ça, on peut en discuter, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience. Vous, les journalistes aussi, vous avez un grand rôle à jouer là-dedans, d'information.
Oui. Un mot. Je pense que notre économie est organisée autour de l'entreprise et la chose qui est la moins connue, c'est ce que c'est que l'entreprise. On parle de l'idée que tout le monde sait et finalement très peu de gens savent. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse unique. C'est sur cette multiplicité de sens et qu'on ne se penche pas. Les étudiants ont l'impression qu'il y a une entreprise, Nestlé et puis la PME, la micro-entreprise, c'est la même chose.
Et vous qui êtes entre Nestlé et la micro-entreprise, M. Pfefferle, quand vous engagez vos cadres, par exemple, est-ce que vous regardez l'endroit d'où ils proviennent? Est-ce que ça a une importance pour vous, le cursus académique qu'ils ont suivi? Bien entendu, si tant est d'avoir encore un peu d'expérience après.
Alors là, je pense qu'on tombe dans... Si on parle des cadres, effectivement, on va chercher peut-être un niveau un petit peu plus élevé. Si on parle des chauffeurs, avec tout le respect que je dois pour mes collaborateurs, ce sera peut-être un niveau différent. Mais oui, les cadres, on va peut-être plutôt regarder l'intelligence émotionnelle de ces gens-là plutôt que le curriculum vitae. Ça me paraît même plus parlant que voir bêtement des lignes alignées qui disent que j'ai fait tant d'universités, etc., etc. Alors oui, on cherche plutôt des collaborateurs qui sont locaux, puisqu'on est une entreprise locale. Alors si on est à Viège et on est présent à Monté aussi, on va plutôt prendre des gens de la région, ça me paraît logique. Et puis je déborde totalement parce qu'on va même beaucoup plus loin que ça. On a pris la décision l'année passée d'acheter, vous parliez tout à l'heure, professeur, des gens qui vont du bureau à la maison et de la maison au bureau. Donc nous, on a acheté 50 vélos dans l'entreprise, développement durable, pour que les gens bougent, pour que les gens viennent à vélo à la maison, pour réduire notre consommation de CO2. Donc il y a plein d'idées. Il suffit d'avoir les yeux ouverts et on peut faire beaucoup. En tant que dirigeant d'entreprise, je peux faire beaucoup et je peux contribuer beaucoup. Ça me paraît évident.
Sans faire la une des journaux.
Bon, lui, il y a déjà beaucoup de choses à la une des journaux. ce côté émotionnel dont parlait M. Pfefferle, qui fait partie d'une. Donc ce choix des gens par rapport à leur quotient émotionnel, on dira, fait partie d'une qualité de vie, comme les vélos électriques ou pas électriques font partie d'une qualité de vie et d'environnement. Est-ce que vous, au syndicat, quand vous discutez, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au bénéfice d'une convention collective de travail, est-ce que vous tenez compte de ces éléments?
Ah ben, ces éléments-là, ils sont au cœur de nos réflexions, parce que effectivement, les salaires, et ça a aussi été dit pendant la campagne, c'est une petite partie de l'ensemble. Et puis, on essaye de couvrir d'autres professions avec des conventions collectives. On a dit qu'on allait le faire, on a prévenu quelques personnes qu'elles allaient avoir des courriers de notre part dans les jours qui viennent. Oui, c'est parce que c'est un ensemble de reconnaissances. Au passage, je remarque qu'il y a des normes pour à peu près tout, ISO, je ne sais pas combien, qui garantissent que tout est bien documenté. Tout peut fonctionner faux, ça pose aucun problème par rapport à la norme ISO, mais ça doit être documenté correctement. Qu'il y a des normes environnementales, etc., etc. Pas tellement de normes sur le traitement du personnel. Et d'ailleurs, je connais beaucoup l'entreprise où le personnel qui s'appelle ressources humaines, ce qui est un mot qui m'a jamais beaucoup plu, c'est finalement les ressources dont on s'occupe malheureusement trop souvent le moins et pour lesquelles on n'a pas de contrat de maintenance.
Pour que cela, ça change, parce qu'en fait, on est ici pour donner quelques pistes, si tant est que c'est possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que ça ne se décrète pas de traiter les ressources humaines avec humanité.
Non, ça ne se décrète pas. Il faut déjà commencer par fédérer les premières bonnes volontés, puis après, il faut trouver des relais, effectivement. Nous, clairement, en ce moment, au syndicat chrétien, on a un problème de relais politiques. Parce que chaque acteur a ses propres limites, que ce soit les partis politiques, que ce soit les entreprises ou les associations professionnelles, que ce soit l'État. Peut-être qu'en réunissant quelques bonnes volontés autour de quelques idées de base, on pourrait faire avancer les choses. Mais chacun dans son coin, ce sera clairement, à mon sens, pas possible.
Donc en fait, c'est l'individualisme qui est à la base de... On dira de ce traitement de l'employé ou de l'ouvrier.
Pas partout. Et non, moi je sais plus qui parlait de gris tout à l'heure, mais effectivement, le monde, c'est un camaïeu de gris. On raisonne pas en noir et blanc. Il y en a bien assez d'autres qui font ça très bien. On leur laisse volontiers cette manière de représenter la réalité. Mais il est vrai que on rencontre. On ne sait plus très bien non plus quel est le positionnement politique des fois. Dire les choses crûment, la famille politique à laquelle ont été proches les syndicats chrétiens, on se reconnaît plus dans cette famille politique-là. Quand on a voté sur l'ouverture des shops, j'ai été personnellement vraiment déçu, alors que l'Alliance du Dimanche et que les églises étaient contre le passage de cette ouverture des shops, de voir, par exemple, pour prendre des exemples simplement, le PDC Valais-Romand soutenir massivement l'ouverture des dimanches, ça a été une vraie déception. On cherche des gens de bonne volonté pour faire avancer, sans manichéisme, les choses avec nous.
Mais voilà,
j'ai lancé l'appel.
Pas que vous changiez votre fusil d'épaule quelque part en vous disant ceci est inéluctable, et je pense que ça l'est, mais on pense qu'on veut de ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas négocier peut-être un peu en amont pour obtenir certains avantages plutôt que de faire un blocage par rapport à ces ouvertures? Elles ont lieu en France, elles ont lieu dans tous les pays qui nous entourent. On va pas y échapper encore très longtemps. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être négocier déjà maintenant en disant, bon, on est d'accord sur A, B, C, mais en place, vous nous donnez le FG.
Ça se fera peut-être. On verra déjà ce qui se passe avec la motion Lombardi. Je suis curieux de voir quelle sera la position des fédéralistes acharnés par rapport à une mesure qui est totalement antifédéraliste.
Bon, on a vu que ça ne gênait pas tellement de monde, les mesures antifédéralistes. Les Valaisans sont bien placés pour le savoir. On parlait un peu de l'État, de la politique. Est-ce que, Madame Gessler, est-ce que vous pensez que le politique joue son rôle dans cette promotion des entreprises? ou bien est-ce qu'il pourrait sans doute faire plus, mais de quelle manière il pourrait faire plus pour étoffer, on dira, le tissu économique valaisan.
Donc, au niveau étatique, il y a la plateforme Business Valley qui comporte quand même plusieurs acteurs, le service développement économique, le bras financier OVAC-CCF, l'antenne région Valais-Romand, l'homologue au Valaisan, CIMARC pour tout ce qui est innovation technologique. Donc c'est aussi toutes des infrastructures qui sont présentes et au service gratuitement, confidentiellement à l'entreprise valaisanne. Donc après, c'est aussi à l'entrepreneur de venir vers ces différents acteurs pour chercher des solutions. Business Valley fait aussi beaucoup de sensibilisation, de promotion et essaie de donner des outils pratiques pour avoir des pistes, faire face par exemple à Alex Weber, revoir son business model. L'année passée, on a organisé 13 petits déjeuners sur le thème « Comment revoir son business model vis-à-vis de l'Alex Weber ». Il n'y a pas de solution toute faite. Après, on essaye de réfléchir, avoir des solutions les plus optimales possibles. L'entrepreneur reste quand même seul de sa décision et sa stratégie.
Oui.
Non, juste un petit complément au passage. Je monopolise un peu, désolé. Je trouve, simplement, je voulais souligner une chose, c'est que l'État met en place, et c'est très très bien, des structures performante pour aider les entreprises, etc., etc. En parallèle, je me demande si l'État se tire pas une balle dans le pied avec son obsession d'économie tous azimuts, avec des décrets ETS1 qui alignent des économies. Le message que l'État est en train de faire passer au monde économique, c'est la crise. Et à un moment donné, il y a aussi une responsabilité sur l'ambiance, parce que à force de dire c'est la crise, on va avoir une prophétie autoréalisatrice où effectivement tout le monde va retenir ses investissements, va retenir ses développements parce qu'on lui annonce la fin du monde pour demain. Et je pense que là, à un moment donné, c'est bien joli d'avoir des structures, il faut aussi avoir un programme politique et un message qui n'est pas systématiquement un message de sinistrose.
Bon, il y a quand même, on parlait de ça, on s'aperçoit à la lumière de ce qu'on a entendu aujourd'hui dans les différentes conférences que les inégalités ont plutôt tendance à augmenter. Donc il faudrait mettre un frein au moins à l'augmentation, puisqu'on sait bien qu'un monde égal ou égalitaire, Madame Suzette Sandou ne dira pas le contraire, est impossible. Est-ce que cette initiative pour un revenu de base inconditionnel, est-ce que c'est une solution pour réduire ces inégalités, Patrick, c'est ton domaine.
Oui, enfin, c'est mon domaine dans la mesure où c'est nos cousins de SINA qui ont été à la base de ça. Alors, très franchement, je ne sais pas. J'avoue que... cette initiative qui a donc été déposée, sur laquelle on devra voter, je pense, dans 18 ou 24 mois, elle est au moins, elle m'interpelle au moins parce qu'elle elle représenterait un changement de paradigme complet. On a encore le temps d'analyser les choses, mais je crois qu'il est impossible de prévoir les conséquences que ça peut avoir, parce que l'introduction de ce revenu minimum inconditionnel casse justement la rupture, le lien entre le travail salarié et une sorte de citoyenneté ou d'existence sociale. Et d'une certaine façon, j'avoue que, en tout cas dans mes moments de blues, j'ai l'impression que le système actuel va tellement tout droit dans le mur que j'ai une sympathie pour des alternatives.
Et monsieur Pfefferlet, pensez-vous que ce serait reçu comment par vos employés, ce...
Écoutez, moi, je suis un petit peu à des années-lumière de ce qui se dit ici. Moi, je reviens un petit peu aux questions d'avant. L'économie en Suisse, mais elle va drôlement bien, mais on va drôlement bien. Arrêtons d'être négatifs et de voir le diable où il n'y a pas de diable. On est les numéros 1 au monde, on est les champions en Europe, on mange tous les jours correctement. Moi, je trouve que ça va drôlement bien. Et je trouve que vous avez parlé des politiques. Les politiques, je ne lance pas des fleurs à personne. ils font correctement leur boulot, ils savent ce qui est en train de se passer, ils essayent d'anticiper, ils sont pris peut-être dans des lois et des machins, etc., dans de l'administratif. Mais je trouve que de manière générale, la Suisse fonctionne extrêmement bien. Arrêtons d'être négatifs. Moi, j'aimerais donner un message positif, puis allons de l'avant.
Alors, merci de ce message. Je vais maintenant ouvrir la discussion à la salle, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Oui.
Pour montrer qu'on a fait juste des choses contre. Je suis étonné que cet outil ne soit pas sur le devant des discussions. Un système qualité impose d'abord une politique qualité. La politique qualité impose la satisfaction des besoins du client. La satisfaction des besoins du client, c'est par l'entreprise, c'est par les ouvriers, c'est par les collaborateurs, donc par une cause aussi, la bonne collaboration et une bonne situation des collaborateurs et une bonne configuration de l'entreprise. À ce niveau-là, le Japon va développer le total quality management où le collaborateur est devenu la valeur première de l'entreprise avant l'investissement du capital. Et cet outil, j'en ai fait l'expérience, c'est un outil puissant et quand j'ai travaillé en plus dans l'administration pour la construction de groupe, j'ai constaté que le rôle de l'État dans l'exigence de la qualité, dans l'exigence de l'entreprise d'avoir un système qualité, c'était quelque chose d'hyper efficace.
Tout à fait. C'est évident. Je ne fais pas du papier pour faire du papier. Ça me paraît évident.
Vous évoquez des pistes, ça, c'est une piste qui est fabuleuse et qui est reconnue sur le plan mondial et qui en plus contient un système d'amélioration continue selon la route des lignes. N'importe qui dans l'entreprise peut faire une proposition et est obligatoirement documentée, analysée avec une réponse, etc. La même chose qui se fait dans l'administration financière.
Le thème aujourd'hui, c'était économie économie sociale ou contribution des entreprises. Je crois qu'il y a une norme qui répond à ça, c'est la norme 26000, dont personne ne parle, qui est la norme du social et du développement durable et du comportement des entreprises, de l'éthique, de la morale. Elle résout rien, hein, mais elle dit pas mal de choses et elle va dans le bon sens. Je pense que tout le monde va être imprégné, entre guillemets, de cette norme.
Mais ça a quand même un coût. Mais non, il y a des entreprises m'ont dit que oui.
Non, c'est faux. C'est les entrepreneurs, le jour où ils ont compris que ça coûte beaucoup moins cher de faire les choses juste du premier coup, ils s'investissent. Voilà. J'ai décidé en 1993-1994, on a imposé ces systèmes, les entrepreneurs se sont jetés et ils disent combien ils sont heureux. Alors effectivement, ça a un certain coût. Mais du coup, est attiré dans les coûts. Mais les économies que vous avez en cours sont extraordinaires.
Ce n'est pas un coût, c'est un investissement.
Voilà, c'est un investissement pour pas le coût.
D'accord, volontiers que c'est un bon outil d'analyse. Ce que je dis simplement, c'est que ça me paraît que derrière, la question reste posée de savoir ce qu'on fait des résultats de l'analyse.
Est-ce que quelqu'un a encore une question? Est-ce que quelqu'un a encore une remarque à faire?
Autre chose qui a été aujourd'hui avec le développement de la
Oui. C'est un peu la désignation de volontaire.
Ouais. Si je peux me permettre, je trouve que ça aurait au moins un mérite. Alors, la forme reste à définir, mais mon premier bilan, après un peu moins d'une année de syndicalisme, c'est qu'il manque des lieux de rencontre entre le monde de l'entreprise et les syndicats. L'absurdité du système veut qu'on a tendance à ne se voir que sur les objets où les intérêts divergent objectivement, c'est-à-dire les salaires, et à jamais se voir en dehors de ça. Donc, de jamais avoir l'occasion de parler du 90% où les intérêts des employés et ceux de leurs employeurs sont convergents, et de se donner rendez-vous une fois par année que de parler de ce qui divise. Et comme ça, on n'avancera pas beaucoup.
Peut-être juste un mot. Je crois que ce qu'on oublie, on l'a mentionné pendant cette discussion, c'est l'extrême hétérogénéité du tissu social et économique. Et je crois que ça, la réflexion dont vous parlez, elle est très importante pour rapprocher en quelque sorte, en termes peut-être à la fois, parce que chacun l'expérimente dans la vie, mais il faut l'articuler avec des mots, et de dire que, d'une part, il y a plusieurs manières d'être entrepreneur, il y a plusieurs manières de conduire une entreprise, il y a plusieurs manières de faire l'entreprise, et que tout ne se ramène pas à un article de loi, que cette profondeur humaine, notamment dans la durée, il y a une énorme marge de manœuvre et il y a un appel d'air, en quelque sorte, considérable, et qu'il faut aménager cet appel d'air que pendant, je crois, les 30 dernières années, en tout cas, on a considéré comme étant non existant, parce que les marges de liberté, on partait de l'idée que les marges de liberté n'existaient pas compte tenu des attentes de rentabilité d'un côté, de la dépression syndicale de l'autre, et que finalement, la marge de manœuvre n'existait pas. Or, cette marge de manœuvre, on la découvre tous les jours, elle existe, et ça mérite d'être rappelé.
L'occasion de rappeler que... Moi, je suis frappé par une chose, c'est que qu'une entreprise cotée en bourse et l'obsession de ses rapports trimestriels, je comprends très bien. Mais il y a visiblement des effets de mode, parce qu'on voit, j'ai travaillé pour des entreprises qui n'étaient pas cotées en bourse, qui étaient des entreprises familiales, qui auraient pu se permettre le luxe de penser sur le long terme, de penser autrement que sur des résultats trimestriels, mais qui sont contaminées par un espèce d'effet de mode.
Si vous permettez, du point de vue de l'expérience véhiculée par les écoles, qui fournit la matière empirique? C'est l'expérience des très grandes entreprises, parce qu'elles sont capables d'inviter de temps en temps un chercheur, elles publient des rapports, elles donnent de l'information, et de quoi se nourrit le chercheur? Il se nourrit de ça, il ne se nourrit pas de ce qui constitue la vie effective du tissu économique. Je crois que là, il y a un pont à bâtir au niveau aussi du matériau que l'on peut proposer à des enseignants, parce qu'ils sont à 1000 années de lumière des réalités. Et là, je pense que la marge de manœuvre et l'enseignement social chrétien a des choses à dire sur l'exercice de la propriété, sur les hiérarchies entre capital et travail, sur l'innovation, sur le droit des propriétés intellectuelles, etc., etc., etc. Et cette réflexion peut se faire au niveau macro, elle peut se faire au niveau des comportements, mais elle doit aussi se faire au niveau méso, celui des mécanismes, c'est là où je mets les entreprises. Et je crois que là, effectivement, il y a ce forum et des initiatives de ce type sont des lieux peut-être de coagulation et de fermentation des idées nouvelles pour chacun, y compris pour les créateurs d'entreprises. L'économie sociale et solidaire, dont on n'en a pas parti, c'est quoi? C'est une tentative d'énergie de trouver d'autres manières de faire de l'économie.
Oui, effectivement, c'est un élément extrêmement important aussi. C'est une forme de la reconnaissance qui dépasse le salaire, donc on parlait de justice, etc., qui met l'employé aime cette forme de reconnaissance peut-être autant que le salaire parfois. Mais ça se justifie peut-être aussi quand on a un niveau de salaire qui est suffisant. Parce que les gens qui ont un petit niveau de salaire, leur première préoccupation, c'est d'essayer d'améliorer celui-là avant d'avoir peut-être ce dont vous parlez, cette reconnaissance, etc. Voilà, alors on a essayé d'évoquer quelques pistes, un peu, il y en a plusieurs qui sont intéressantes, si on les norme ISO, si on lit bien les analyses, ces lieux de rencontre à créer pour parler plutôt des convergences que des divergences entre les partenaires sociaux, l'idée de M. Dembinski qui paraît extrêmement importante, il faut que les chercheurs, que les étudiants aillent dans les petites entreprises, ne se contentent pas d'aller dans les grandes entreprises pour avoir une vision exacte de la réalité du monde. Et pour finir, peut-être ce fameux comité qui reste un peu virtuel. Je remercie tout le monde de cette participation et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Vous m'entendez? Juste avant que tout le monde s'en aille, juste un petit mot de conclusion qui est, comme d'habitude, un petit mot en forme de remerciement. J'aimerais remercier très brièvement les orateurs du jour, Monsieur Nicolas Michel, qui nous a présenté ce matin une vue géopolitique globale en parlant de la communauté internationale, les principes de la dignité humaine, le préambule qui se trouve dans le préambule de la Charte des Nations Unies, le bien commun qui se trouve dans le préambule de la Constitution fédérale. Et j'aimerais juste, je pense que ça mérite de s'attarder juste une seconde pour relire cette phrase qui était, je trouvais, très belle. Dans notre Constitution fédérale, la force de la communauté se mesure au niveau de bien-être du plus faible de ses membres. C'est également les autres principes de subsidiarité, de participation, de distribution universelle des biens et de solidarité. Un petit mot qui est revenu plusieurs fois, c'était les hommes de bonne volonté. On l'a aussi entendu plus tard. Je crois qu'on le lit aussi dans certains textes de la doctrine sociale. Merci à Mme Suzette Sandeau qui nous a donné une vue sur le droit comme arme des pacifiques et force des faibles. Avec cette belle disposition du Code civil suisse qui dit que l'abus de droit n'est pas protégé, donc celui qui est fort et puis qui a le droit pour lui, il ne peut pas encore s'en servir en plus. Donc c'est une défense pour les plus faibles. Monsieur Paul Dembinski qui nous a donné une vue économique, la société des 30 euphoriques, je ne connaissais pas, je connaissais les 30 glorieuses, j'ai découvert aujourd'hui les 30 euphoriques. Cette petite citation, on n'est plus des personnes dans un système économique, on est des rouages dans une machine. Et effectivement, cette phrase traduit bien le sentiment qu'on peut avoir et comment en sortir. Eh bien, les principes de la doctrine sociale nous donnent quelques pistes. Enfin, un merci en votre nom aux participants de la table ronde. M. Paul Dembinski, que j'ai cité tout à l'heure, M. Christian Pfefferlet, qui est un entrepreneur optimiste, ça fait plaisir d'entendre. Je vous dirais que vous êtes plutôt minoritaire du côté des entrepreneurs à avoir un regard optimiste sur la situation actuelle et sur l'avenir, mais je me range volontiers à vos côtés parce que je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Un merci à M. Patrick Chabet des syndicats chrétiens. Un merci à Mme Florence Gessler, l'antenne région Valais-Romand. Et puis, un merci aussi à notre modérateur, M. Pierre Majorac, spécialiste économique du Nouvelliste. Nous avons des petits cadeaux pour chacune d'entre vous. Et j'aimerais également remercier les travailleurs de l'ombre, sans qui cette journée n'aurait pas été possible, donc l'association valaisanne des amis de Philanthropos, le personnel de la fondation Nestor, et aussi le personnel du lycée-collège des Creusets. Un merci aussi à nos sponsors et partenaires, au Nouvelliste, à l'antenne région Valais-Romand, à la CAF maîtrisée, et aussi un merci à vous pour votre participation à cette première rencontre de doctrine sociale. Vu ce qui a été dit, on se demandait si on allait remettre ça pour l'année prochaine. Ça semble plutôt bien parti, on va en décider. Alors pour celles et ceux qui ont le temps, nous pouvons encore partager un petit verre, et les personnes qui ont participé aujourd'hui, qui ont encore le temps, bien entendu, pour échanger en bilatéral avec ces personnes. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci.
Merci.